Chers amis, je vous propose ce soir d'ouvrir nos Bibles, tout d'abord au début du livre de Daniel. Première partie de la Bible, l'Ancien Testament, livre de Daniel. Nous lisons deux versets qui vont constituer la toile de fond de notre réflexion ce soir. Daniel chapitre 1er, les versets 8 et 9, dans lesquels il nous est dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Nous laisserons la suite de ce texte pour notre soirée de demain. Un second texte dans le Nouveau Testament, vers la fin du Nouveau Testament, premier épître de Pierre, au chapitre 1er, quelques versets, premier épître de Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 14. Premier épître de Pierre, chapitre 1er, verset 14, nous irons jusqu'au verset 21. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs coupables que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec respect pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quel beau thème! Et quel défi! Quel défi que nous allons aborder ce soir et demain soir en mettant en contraste deux groupes de personnages vivant à quelques 170 années de distance, d'intervalle, mais qui vont nous permettre de mieux faire ressortir l'importance de notre thème, et en particulier de ces deux aspects, vivre et maintenir la différence. D'un côté, le jeune Daniel et ses compagnons. De l'autre, le peuple d'Israël à l'époque de Malachie. Oh, je passerai comme chat sur braise sur certaines descriptions pour aller à l'essentiel. Et nous commencerons donc ce soir par souligner cette arrivée en 605 avant Jésus-Christ d'une petite équipe de jeunes gens. Ils arrivent d'une capitale au provincial à l'échelle de cet immense empire, Jérusalem, dans cette immense cité, Babylone, Babylone la Grande, ils sont les victimes innocentes des bouleversements internationaux de leur époque. Prisonniers de guerre, déracinés, exilés, transplantés dans la capitale prestigieuse d'un immense empire. Babylone, cité orgueilleuse, cité aussi considérée comme la capitale de l'occultisme mondial, cité à cette époque en particulier particulièrement violente et corrompue, idolâtre, cruelle. Et d'emblée, à l'aube de ce récit du livre de Daniel, le meneur de l'équipe s'inscrit à contre-courant des habitudes de la cité. Il prend une décision courageuse, la décision courageuse de vivre la différence. Goutte d'eau dans cette mégalopolis, dans cette cité gigantesque, pourtant, il refuse de se souiller par une nourriture et une boisson en partie préalablement consacrée aux idoles. Et en cela, déjà, il y a de sa part un refus respectueux de pactiser avec l'esprit babylonien. Des siècles et des siècles à l'avance, voici un jeune homme qui s'exprime dans le langage de l'apôtre Paul, beaucoup plus tard. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. 1 Corinthiens 10, 21. Et nous voici déjà devant un premier contraste, devant une première énorme différence, à savoir le désaccord de Daniel avec les sacrificateurs qui, quelques 170, 175 ans plus tard peut-être, diront « Oh, la table de l'Éternel est méprisable. La table de l'Éternel est à dédaigner. » Malachie 1,7. Nous y reviendrons. Et là aussi, il me semble ce soir entendre sur les lèvres de Daniel ce propos de l'apôtre Paul dans cette même première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, faites tout pour que la beauté de Dieu, les perfections de Dieu, la beauté de son caractère, de ses œuvres, la pesanteur de Dieu soit rendue sensible au regard de vos contemporains. » La conduite de Daniel et de ses compagnons va trancher avec une éloquence manifeste sur celle de la majorité de leurs compatriotes venus après eux de Jérusalem vers Babylone à partir de 597 avant Jésus-Christ. J'en veux pour preuve deux témoignages écrits à cet égard dans le livre du prophète Ézéchiel. Je vous les livre simplement, je les ai sous les yeux, le premier dans Ézéchiel 14, 21, où Dieu nous dit ceci, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces, la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils des filles. » Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Une lecture superficielle pourrait nous laisser croire que le comportement de ces exilés était particulièrement recommandable. Mais le contexte et le deuxième passage va nous indiquer plus précisément le problème. Ézéchiel 36, à partir du verset 16, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » C'est Dieu qui parle. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite, par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés en divers pays, dont Babylone, bien entendu. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Voilà donc des exilés qui se conduisaient terriblement mal. On les montrait du doigt. Parce que même à Babylone, on considérait que, étant membres du peuple de l'Éternel, ils auraient dû se conduire autrement. Et là aussi, comme en écho, c'est l'apôtre Paul qui dira dans Romains 2, 24 que le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Daniel et ses compagnons sont donc une équipe de jeunes gens déterminés à se démarquer coûte que coûte de Babylone et à vivre dans la sainteté. Non seulement ils sont un échantillon de ce fameux reste fidèle de l'Israël de Dieu, mais ils sont aussi comme une annonce, une sorte de préfiguration de l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire de vous et moi, si nous avons une relation personnelle avec Jésus-Christ et sommes ses témoins dans le monde moderne. Alors la question qui va nous préoccuper dans un premier temps est celle-ci, mais quel est donc le moteur de cette différence de conduite? Eh bien c'est une autre différence. La différence est bâtie sur une différence. Une différence concernant la vision que Daniel a de son Dieu. C'est-à-dire, expliquer d'une autre manière, quelle est sa norme de différence? Quel est son maître étalon de différence? Et c'est déjà là, dans ce que nous allons développer maintenant, que doit se situer la différence fondamentale entre nos disciples de Jésus-Christ et le monde qui n'a pas de relation avec le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Daniel est la démonstration par excellence d'une affirmation qui se trouve à la fin du livre qui porte son nom. Daniel 11, 32 dit ceci, écoutez, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est là qu'on verra la différence. Parce qu'ils connaissent leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Et Daniel est de cela. À l'aube de ce livre, Daniel nous montre qu'il connaît son Dieu. Qu'il aime son Dieu. Tant il est vrai que dans le langage biblique, dans le langage de Dieu qui nous transmet son message, la véritable connaissance ne peut être que synonyme d'un amour authentique. Daniel est un passionné de Dieu. Et il n'attendra pas, comme on dit, d'avoir de la barbe jusqu'au nombril pour évoquer sa connaissance personnelle si remarquable de son Dieu. À peine âgé d'une vingtaine d'années, il s'adresse à lui dans une situation difficile, situation de crise. Il est en train d'avoir une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête avec ses compagnons. Et il prie Dieu dans cette situation difficile et dans Daniel 2, 19, voici ce qu'il nous dit. Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Oh, nous aurions pu simplement passer notre soirée à développer le contenu de cette prière pour toucher du doigt l'intelligence spirituelle qu'a le jeune Daniel, cette juste perception qu'il a de son Dieu, de ce Dieu qui sait tout, de ce Dieu tout-puissant, de ce Dieu présent partout, de ce Dieu qui dépasse infiniment toute sa création et qui pourtant est si près d'elle, puisqu'il est capable de dire « Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné, de ce que tu m'as fait connaître, un grand Dieu ». Et au même moment, un Dieu tellement proche. Et c'est le même Dieu qui est là dans la pensée de Daniel, 60 ans plus tard, lorsque le roi Darius, bouleversé par la beauté de la vie de ce vieillard, qui maintenant est largement octogénaire, qui vient d'échapper à la fosse aux lions, et qui témoigne, ce roi Darius, en disant dans Daniel 6, 26, « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. » Oh, quel témoignage! Combien je souhaite infiniment que mon entourage puisse parler du Dieu de Maurice Decker, d'un Dieu personnel, d'un Dieu vivant, comme Darius était capable de parler lorsqu'il était en face de ce vieillard qui venait d'échapper à une mort horrible, simplement à cause de son intimité, de son sa capitulation, de son abandon volontaire entre les mains d'un Dieu extraordinaire qu'il servait depuis sa jeunesse. Chers amis, Daniel est différent parce qu'il est tout d'abord théocentrique, parce qu'il est centré dans sa vie sur la personne de Dieu. Et c'est là que commence la différence. Si nous voulons que les autres voient la différence, c'est Dieu qu'ils doivent voir en nous. Et c'est cela ce que nous allons développer jusqu'à demain soir. Daniel, vous le savez, a ceci de particulier, c'est que il est appelé par Dieu son bien-aimé. Tu es un bien-aimé. Chapitre 9, 23, chapitre 10, verset 11, chapitre 10 encore, verset 19. Tu es un bien-aimé. Littéralement, tu es une personne désirée. Tu es une personne désirable. Tu es une personne précieuse. Tu es une personne qui a de la valeur à mes yeux. Littéralement, tu es une personne aimée, mais dans le texte original, aimé est simplement mise au pluriel pour une seule personne. C'est une forme de superlatif. Tu es l'aimé par excellence. Et c'est Dieu qui parle. Un commentateur a fait remarquer que les conceptions qu'un homme a de Dieu déterminent son attitude par rapport à l'heure dans laquelle il vit. Dites-moi, qui est votre Dieu ? Et je vous dirai comment vous vous conduisez dans votre vie quotidienne. Et c'est là que s'établit aussi le contraste. Le plus fondamental avec Israël, à l'époque de Malachie, ceci nous a été dit hier soir déjà. Quelle conduite scandaleuse de la part de ce peuple qui a perdu une juste vision de Dieu. Un peuple dans le livre de Malachie qui nous est présenté comme étant devenu terriblement anthropocentrique, terriblement égocentrique. Un peuple chez lequel on ne rencontre plus la crainte de Dieu, un des grands thèmes du livre de Malachie. Par contre, ce peuple de Dieu ne sait faire que le procès de son Dieu. Le ton est sarcastique, irrévérencieux. L'attitude est ingrate, effrontée, rebelle. La dominante est celle des plaintes, des revendications. Domine aussi le mépris, la contestation, l'amertume, la propre justice. Dieu est accusé d'injustice, d'infidélité. Il n'y a plus de vision au sein de ce peuple. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de passion pour Dieu. Et notre frère hier soir nous rappelait comment s'ouvre le livre de Malachie. Dieu se présente. C'est par là que le livre commence. Les premiers versets sont théocentriques. Dieu commence par se présenter. Elle dit, mais je vous ai aimé. Et lorsque j'ai été interpellé par ce « je vous ai aimé », immédiatement, dans mon esprit est remonté ce texte fondamental concernant l'histoire d'Israël dans ses relations avec Dieu qui figure dans Deutéronome 7, versets 6 à 9, que je vous livre tel quel. Car c'est l'Éternel qui parle. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Oh, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime. Et parce qu'il a, dans son amour, voulu être fidèle au serment qu'il avait fait à vos pères. Il vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Et il est question ensuite de la fidélité de Dieu, à la fois dans son amour, mais aussi dans sa justice. Il est question de la main droite de Dieu, mais aussi de la main gauche de Dieu. Dieu, un Dieu fantastique, un Dieu qui nous aime gratuitement, un Dieu qui nous trouve, vous et moi, précieux. Nous avons de la valeur à ses yeux. Oui, malgré, au sein même de notre culpabilité, nous avons une profonde valeur aux yeux de Dieu. Dieu nous l'a prouvé. Il ne s'est pas payé de mots. Il est allé plus loin. Il nous a dit combien nous avions de valeur à ses yeux parce que nous avons été créés par lui. Il nous a dit la valeur que nous avions dans l'incarnation, dans ce don suprême du Fils de son amour, de son Fils unique et bien-aimé. Dieu qui est à la fois, nous dit Malachie, Malachie 1.6, un Père et un Seigneur. C'est un grand Dieu. Cela ressort trois fois du premier chapitre de Malachie. Je suis un grand Dieu. Je suis même un très grand Dieu. Je suis le Dieu redoutable. Je suis le souverain très grand. Et si vous avez pris soin en remarquant le thème choisi, de lire le livre de Malachie, comme moi, vous avez été impressionné par une expression, l'un des titres de Dieu, qui revient, tenez-vous bien, 24 fois dans ces chapitres, ces courts chapitres du livre de Malachie. Je veux parler de cette expression, l'Éternel des armées. 24 fois. Un titre de Dieu qui, par exemple, n'est jamais utilisé dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible. Un titre qui revient, pour comparaison, 61 fois dans les 54 premiers chapitres du prophète Ésaïe. Mais un titre qui figure quelques 88 fois dans les 20 chapitres qui constituent la fin de notre Ancien Testament, c'est-à-dire dans les 3 derniers livres, Agée, Zacharie, Malachie, 3 livres d'après-exil, 88 fois, l'Éternel des armées. Un rappel insistant quant à la souveraineté de Dieu, quant à sa puissance sans limite sur le cosmos tout entier, dont il est le Créateur. Dieu nous interpelle. Il nous dit « Je suis le maître absolu de l'univers. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le fort d'Israël. » Il est intéressant de constater, par exemple, que la version grecque dite des Septante de l'Ancien Testament va rendre l'expression « l'Éternel des armées » par un petit mot grec que l'on trouve 9 fois dans l'Apocalypse, sur 10 fois dans le Nouveau Testament, on verra la 10e demain soir, un petit mot qui est rendu par le Tout-Puissant dans l'Apocalypse, le souverain aux pouvoirs illimités, le dominateur universel. Je pense à ce commentateur qui, évoquant l'Éternel des armées dans Malachie, souligne ceci: bien que les Juifs aient vu les immenses armées ennemies rangées en ordre de bataille contre eux ou défilant dans leur propre pays lointain, ils étaient sûrs que Yahvé possédait des escadrons encore plus immenses et que toutes les puissances de la nature, toute l'agitation des volontés humaines, tous les royaumes invisibles des morts, toutes les principautés et puissances du ciel, archanges, anges, séraphins, chérubins, se tenaient aux ordres de sa puissance souveraine, allant et venant, faisant ceci ou cela selon sa volonté. Relève la tête, enfant de Dieu. Ton père est aussi le grand roi qui agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, un passage du livre de Daniel au chapitre 4. En résumé, Dieu est saint. Dieu est saint. Ce qui veut dire littéralement qu'il n'a pas d'équivalent. Il n'a pas de pareil. Il est unique au monde. Et quand je parle du monde, je parle du cosmos, le plus étendu à l'infini. Il est différent de tout. Il est irréductible. Il est aux antipodes. Il est totalement autre. Il est séparé de tout ce qu'il a fait. Il ne se confond pas avec sa création. Il ne se laisse pas assimiler. Et à l'heure du Nouvel Âge, c'est important. Le Dieu de la Bible dit non au monisme, à cette approche du monde qui souligne simplement que tout est un, qu'il n'y a aucune différence entre Dieu, un homme, une plante, une pierre. Tout est interdépendant, tout est interpénétrant, il n'y a pas de frontière. Dieu dit non. Et de la même manière, Dieu dit non au panthéisme, qui fleurit aussi de notre temps. Ce panthéisme qui dit, mais Dieu est tout, tout est Dieu, le monde est Dieu, où Dieu est une force du monde, peut-être la meilleure qualité du monde. Non. Dieu est totalement autre. Dieu est
totalement séparé de sa création. Il ne se confond pas avec elle. Il ne se laisse pas assimiler.
C'est cela la sainteté de Dieu. Dieu est saint, donc d'abord totalement différent. Et puis Dieu est amour. Ce Dieu totalement différent devient le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Alfred, le Dieu d'Alain, le Dieu de Maurice. Il devient un Dieu personnel parce qu'il lui plaît de s'occuper de sa créature, de s'approcher d'elle en Jésus-Christ pour rétablir avec elle une relation perdue, une relation de partage extraordinaire. Il s'approche de moi. C'est a été comblé. Un voile est ôté. Je marche avec lui parce que Jésus-Christ est le chemin qui me mène à lui. Il rétablit ma relation avec ce Dieu saint. Parce que son sang précieux, nous l'avons lu dans la première épître de Pierre, a coulé sur la croix. Nous n'avons pas été rachetés par des billets de banque, par des pierres précieuses, de l'or, de l'argent ou je ne sais quoi encore. Nous avons été rachetés de cette vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères par le sang précieux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous rapproche du Père. Et je parle au présent ici. Notre frère nous l'a rappelé hier soir. Je suis l'Éternel. Je n'ai pas changé. Je ne change pas. Malachie 3.6. Il est immuable. Immuable dans son essence, immuable dans son caractère. Je sais que l'amour de Dieu est un soleil qui ne se couche jamais. Il est une source qui ne tarit jamais. Il est une fontaine qui ne s'épuise jamais. Et même dans mes temps de difficulté, dans ces temps où j'ai parfois le sentiment qu'effectivement Dieu est loin, très loin, pourtant, je le sais. Souvent je le réalise après coup, Dieu n'est jamais aussi près de moi que lorsque je suis dans une situation difficile. Quelle paix, écrit un homme de Dieu, pour un cœur chrétien, dans la pensée que notre Père Céleste n'est jamais différent de lui-même. Lorsque nous nous présentons devant lui, quelle que soit l'heure, nous n'avons pas à nous demander si nous le trouverons dans une disposition accueillante. Il est toujours accueillant à la détresse et aux besoins comme à l'amour et à la foi. Il n'a pas d'heure de bureau, ne se réserve pas des périodes où il ne reçoit pas. Il ne change pas d'avis ni d'attitude aujourd'hui. En ce moment même, il a envers ses créatures, envers les petits-enfants, les malades, les coupables, les pécheurs, les mêmes sentiments que lorsqu'il envoya son Fils unique dans le monde pour donner sa vie pour les hommes. Dieu ne change jamais d'humeur. Sa tendresse ne se refroidit pas, son enthousiasme ne s'épuise pas. Alors, mes bien-aimés, vivre et maintenir la différence, c'est d'abord être théocentrique ou encore christocentrique. Dieu, le Père, se manifeste dans son Fils, Jésus-Christ. Pleinement Dieu, parfaitement Dieu, et qui s'est approché de nous dans une humanité tellement ressemblante à la nôtre, qui s'est identifié à nous. Vivre et maintenir la différence, c'est cultiver une juste vision de Dieu, une juste relation avec Dieu, c'est vivre en Jésus-Christ une connaissance de plus en plus profonde du Dieu vivant, une connaissance. Et selon l'étymologie du verbe connaître, connaître, c'est-à-dire naître avec. Naître avec, c'est-à-dire s'identifier à. C'est-à-dire s'identifier de plus en plus à ce Dieu-là. Dieu a accepté en Jésus-Christ de s'identifier aux hommes dans la venue du Fils de Dieu sur la terre. À mon tour, racheté par ce Dieu de Jésus-Christ, je dois m'identifier de plus en plus, parce que Christ habite en moi, à ce Dieu. Ce Dieu doit être vu dans ma vie.
Et il doit être vu dans ma vie, tout d'abord dans sa sainteté. Et c'est ce qui va nous intéresser dans la deuxième partie de notre réflexion de ce soir. Et je m'appuie sur cette affirmation, Dieu doit être vu dans ma vie dans le domaine de sa sainteté, parce que dans Deutéronome 7:6, que nous lisions tout à l'heure, comment commence le texte ? Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Pas parce que tu es le plus grand, tu es le moindre. Il t'a aimé, mais il t'a aimé pour que tu sois un peuple saint. Saint pour lui. Nous l'avons lu dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alors, ma norme, mon maître étalon de différence, doit être Dieu lui-même révélé en Jésus-Christ. Vivre la différence par la sainteté. Donc, c'est presque une tautologie. C'est presque un pléonasme, si vous voulez. Vivre la différence par la sainteté, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, cela veut dire littéralement vivre la différence par la différence. Comme Dieu, je suis invité à être totalement autre, à ne pas me confondre avec le monde, à ne pas me laisser assimiler par le monde, à avoir un comportement aux antipodes de celui du monde, car j'ai été mis à part pour refléter le caractère de Dieu dans le monde. Et le jeune Daniel va nous démontrer ce que cela signifie concrètement en soulignant quatre caractéristiques de cette vie différente par la sainteté. Qu'est-ce donc que la sainteté, cette différence qui fait la différence ? Premièrement, elle est séparation. Il nous a dit que Daniel résolut de ne pas se souiller deux fois dans le verset 8. Il y a une emphase volontaire. Cela est fait pour attirer notre attention. Daniel décide de se séparer d'avec tout ce qui est impur aux yeux de Dieu. Aux yeux d'un Dieu dont il nous a dit que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Habacuc 1.13. Daniel, en quelque sorte, ne veut pas laisser l'esprit babylonien s'introduire dans sa personnalité. Daniel et ses compagnons sont dans la grande Babylone, mais ils n'appartiennent pas à la grande Babylone. Daniel veut être un reflet de la beauté de Dieu, de la pureté de Dieu dans une cité corrompue. Une sorte de lys fleurissante au beau milieu d'un tas de fumier. Un enfant de lumière dans un monde de ténèbres. Je pense à ces enfants réunis en catéchisme. Le prêtre est devant eux dans une petite chapelle dont les vitraux sont magnifiques. Et le prêtre de s'adresser aux enfants et de leur dire, dites-moi, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un saint ? Bien entendu, dans la tradition catholique. Et les enfants de se creuser la tête, jusqu'à ce que finalement un des enfants, avec un visage tout illuminé, de dire, monsieur le curé, un saint pour moi, c'est un homme qui est traversé par la lumière. Et il montre un des vitraux qui était traversé par la lumière du soleil, avec ce magnifique personnage resplendissant. Un saint, un homme traversé par la lumière. Quelle belle définition. Un homme transparent. L'apôtre Paul parlera de son souci de transparence. Traversé par la lumière de Dieu. Vivant si près de cette lumière de Dieu. Ils sont dans le monde, disait Jésus, mais ils ne sont pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jean 17, 15 à 19. C'est Augustin d'Hippone qui a dit ceci, nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Mais nous pouvons les empêcher de construire leur nid sur notre tête. Le devin Balaam disait il y a bien longtemps, c'est un peuple Israël qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations. Nombre 23, verset 9. Et c'est l'Église aussi. Un peuple qui a sa demeure à part. Nous sommes citoyens des cieux. Et commentant cette parole de Balaam, le prince des prédicateurs Spurgeon décrit ceci, mais qui voudrait demeurer avec les nations et être compté parmi elles? L'état de l'Église professant elle-même est tel que dans ses rangs, suivre pleinement le Seigneur est chose extrêmement difficile. On trouve dans son sein un tel mélange que souvent on se prend à soupirer après un pavillon dans le désert. Il est certain que le Seigneur veut voir son peuple suivre un sentier séparé et se distinguer des gens du monde en sortant avec décision du milieu d'eux. Par décret divin, nous avons été appelés, acquis, mis à part, et notre expérience intérieure nous rend témoignage que nous différons grandement des hommes de ce siècle. Nos noms ne sont pas dans le même livre que les leurs. Nous ne sommes pas de la même semence. Nous n'avons pas le même guide. C'est pourquoi nous ne pouvons être dans leur rang. Et j'ai sous les yeux l'extrait d'une conférence d'un professeur d'origine marxiste qui dit ceci. Obsédée par la peur panique d'être de plus en plus réduite à la position d'une secte isolée, la chrétienté semble faire des efforts fous de mimétisme pour ne pas être dévorée par ses ennemis. Elle semble se déguiser aux couleurs de son environnement dans l'espoir de se sauver. En réalité, elle perd son identité qui s'appuie précisément sur la distinction du sacré et du profane. Premièrement, sainteté, c'est-à-dire différence par la séparation. Mais attention, tout se tient. Ce sont en quelque sorte les quatre roues motrices du véhicule de la sainteté que nous présentons ce soir. Deuxième roue motrice, sainteté, oui, séparation, oui, mais sainteté du cœur. Parce que le texte nous dit très exactement, verset 8, que Daniel arrêta dans son cœur. Il prit la résolution dans son cœur. La vraie sainteté va donc du dedans vers le dehors. Lorsqu'Ézéchias, homme craignant Dieu et voulant lui être fidèle, décida la purification du temple de l'Éternel, cette purification fut entreprise de l'intérieur vers l'extérieur, de Chroniques 29, verset 16. C'est-à-dire que la décision vient du quartier général de nos individualités, de la profondeur de l'être, du siège de mon intelligence, de ma réflexion, de ma volonté, mon affectivité, de mes pensées, le cœur. Pratiquement 1000 fois présent, statistiquement parlant, dans les Écritures. Et partant de là, depuis le cœur jusqu'aux paroles et aux actes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dira Jésus. Matthieu 12, 34. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ces paroles ne sont pas prononcées par un terrible pessimiste de notre temps. Ou bien entendu pas non plus par un humaniste de notre temps. Mais elles émanent de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. Et bien des siècles avant lui, Jérémie disait déjà, Jérémie 17, 9, 10, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Et l'auteur d'un proverbe dira, Proverbe 4, 28, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est donc le cœur qui doit d'abord être changé. C'est donc le cœur qui doit d'abord être profondément visité. C'est donc le cœur qui doit connaître littéralement, au sens bien entendu dans sa dimension spirituelle, une sorte de transplantation. annoncé par le prophète Ézéchiel à l'époque de Daniel, et qui dira: je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, 25 à 27. Ça, c'est la transplantation qu'effectue Jésus, le Seigneur Jésus. Il faut, Nicodème, que tu naisses d'en haut, que tu naisses de nouveau. Il faut que j'implante en moi ma vie, la vie d'en haut. Il faut que la vie d'en haut triomphe dans ta vie. Et c'est pour cela que je vais mourir pour toi sur la croix, Nicodème. Et pour tous ceux qui te suivront dans l'histoire humaine jusqu'à la consommation des siècles. Le cœur doit être changé. Parce que l'Éternel regarde au cœur. À nos motivations profondes, c'est ce qui compte à ses yeux. Je pense à la petite Suzanne qui était assise sur la banquette arrière de la voiture de papa qui conduisait, heureux, sifflotant, lorsqu'il voit dans le rétroviseur Suzanne qui fait des entrechats debout sur la banquette. Alors il lui dit: Suzanne chérie, assieds-toi, c'est dangereux. Tu sais ce qui peut arriver si je freine. Et Suzanne de continuer ses entrechats. Alors changeant de tonalité et donnant un peu plus de force à la voix, le père de dire: mais Suzanne, s'il te plaît, ça suffit, c'est trop dangereux, je te demande de t'asseoir. Et en bon enfant, hélas trop souvent de la fin de notre siècle, Suzanne de continuer ses entrechats. Alors papa de sortir ses dernières réserves d'autorité, de dire: Suzanne, si tu ne t'assieds pas immédiatement, j'arrête la voiture et tu sais ce qui t'attend. Ah mes amis, Suzanne s'est retrouvée à plat ventre, parcours du combattant par excellence. On ne la voyait plus. Papa était fier. Il a pu commencer à rappuyer sur l'accélérateur, il s'est remis à siffloter, il avait retrouvé son autorité. Lorsque quelques minutes plus tard, Suzanne s'adresse de la voix la plus agréable: papa chéri. Oui Suzanne. Papa chéri, j'ai quelque chose à te dire. Oui, Suzanne, tu peux me dire. Eh bien, tu sais, papa chéri, dans ma tête, je suis toujours debout. L'Éternel regarde au cœur. Et aussi parce que si notre cœur n'a pas été visité, nous ferons inévitablement de mauvais choix. Dans la tendance de notre nature. Et cela, tôt ou tard, se verra au grand jour. Israël au désert avait quitté l'Égypte, et pourtant il nous est dit dans Actes 7, 39 qu'ils se tournèrent dans leur cœur vers l'Égypte. Lot avait bien quitté l'Égypte aux côtés d'Abraham. Mais Genèse chapitre 13, versets 9 à 13 nous montre que s'il avait quitté physiquement l'Égypte, l'Égypte était en réalité dans son cœur. Mes bien-aimés, la vraie différence part du cœur. Vivre et maintenir la différence à partir du cœur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous pourrions passer des heures à évoquer tout au long de l'histoire, et déjà de l'histoire du judaïsme, cette vérité si souvent escamotée. On a beaucoup sacrifié au formalisme. Savez-vous que l'esprit qui animait le peuple d'Israël à l'époque de Malachie a donné plus tard, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, naissance à un parti très célèbre, le parti des pharisiens? Eh oui, ça a commencé avec la mentalité qui prévalait à l'époque de Malachie. Or, le mot pharisien vient d'un verbe hébreu pharash, et pharash veut dire séparé. Les pharisiens étaient les champions de la séparation, fanatique de la séparation extérieure, formelle, rituelle, le cœur n'y était pas. Et Jésus devra dire d'eux: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste, vous paraissez différent, hein, aux yeux des hommes. Mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 23, 25 et suivant. Nous aurions pu évoquer les ermites, les anachorètes, les dendrites qui montaient dans les arbres ou les stylistes qui montaient sur leurs colonnes. Tous ceux qui ont essayé d'être différents, de marquer leur sainteté en vivant ou enterrés jusqu'au cou, ou dans des cages, ou sur le sommet de montagnes, ou installés dans les arbres, ou sur des colonnes. Mais ce n'était pas la bonne différence. Elle ne partait pas du cœur. Et il en est un peu, hélas, trop souvent semblable dans nos églises locales aujourd'hui. Il y a différence et différence. Nous ne devons pas confondre fermeté et fermeture. Nous ne devons pas confondre locaux et bocaux. Nos locaux peuvent devenir des bocaux. Être chrétien, ce n'est pas d'abord ne pas danser, ne pas fumer, ne pas boire, ne pas faire la boum, ne pas. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire ce soir qu'il n'y a pas besoin d'être disciple de Jésus-Christ pour cela. Il y a des gens dans le monde qui se conduisent mieux que le disciple de Christ, hélas, parfois ne le fait dans ce domaine. Je pense à ce journal régional qui avait organisé un concours destiné à découvrir dans le pays le citoyen le plus à cheval sur les principes, le plus vertueux, le plus sobre. Et parmi les lettres adressées à la rédaction figurait celle-ci: je ne fume pas, je ne bois jamais d'alcool, je ne joue pas, je suis fidèle à mon épouse, je travaille dur, je suis paisible et docile, je ne vais ni au cinéma ni au théâtre, je me couche tôt, me lève à l'aube. J'assiste à l'office tous les dimanches, il y a 3 ans que je mène cette vie-là. On voulait lui donner le prix, hein, mais il y avait une phrase de plus. Mais attendez, quand on m'aura relâché, il était en prison. Troisième roue motrice, sainteté séparation, sainteté venant du cœur, sainteté consécration. Et c'est par là que nous terminerons ce soir. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Lévitique 20, 26. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Deutéronome 7, 6, nous l'avons lu. Parce que la vraie sainteté n'est pas d'abord une séparation contre, mais une séparation pour. Nous ne sommes pas invités à faire la différence par une sorte d'anticonformisme agressif. Non, la vraie sainteté, c'est une mise à part pour le Seigneur. La vraie sainteté est une affaire de consécration. Elle est une affaire d'amour pour le Seigneur. Et quand Christ remplit le cœur, les idoles doivent disparaître. Parce qu'il n'y a pas de cohabitation possible. Nos arbres sont en train de se dépouiller. Certains d'entre eux vont se retrouver dans une terrible nudité. Ils n'auront plus une seule feuille. D'autres, par contre, surtout certaines espèces de chênes, vont traverser tout l'hiver, gardant, malgré la tempête, le vent, le gel, la pluie, la neige, des éléments parfois déchaînés, ils vont garder des feuilles mortes que l'on entendra en se promenant dans la forêt. Au gré du vent. Mais ce que les tempêtes n'auront pas réussi à faire cet hiver, la sève printanière va le faire sans peine. C'est la sève de Christ, c'est la vie de Christ en moi qui fait la différence. Dans une vraie sainteté, tout est mis à part par amour pour le Seigneur. Tout est mis sur l'autel. Tout passe par la croix. Tout est mis à sa disposition.
Cela veut dire qu'on n'offre pas des vaches folles, hein, au Seigneur. Comme du temps de Malachie. On n'offre pas des bêtes chétives, des bêtes aveugles, des bêtes boiteuses, des bêtes malades, des sacrifices qui ne coûtent rien ou des bêtes volées. On n'offre pas les restes. On n'offre pas des yeux complètement usés par les programmes de télévision qui n'en finissent plus. On n'offre pas des pieds boiteux à courir après des passions humaines, et nous pourrions ainsi continuer. Vivre la différence, c'est offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, à cause de ses compassions, par amour, par reconnaissance. Je ne donne pas les restes, je donne le meilleur. Je n'offre pas des sacrifices qui ne me coûtent rien. Toute ma personne, tous mes biens sont à lui. La vraie sainteté est donc une question d'appartenance à Dieu. La vraie sainteté est centrée sur Christ et non sur elle-même. La vraie sainteté n'est pas quelque chose, c'est lui-même. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Consacrez-vous tout entier à lui, au Seigneur. Et le texte original commence par le mot le Seigneur, Christ, sanctifiez dans vos cœurs. Lui, lui. Alors, mes bien-aimés, je termine en disant, attention, ne pas ériger la sanctification en idole, en œuvre méritoire. Cela n'engendre qu'une pseudo-sainteté triste et corrosive, parce que coupée de la grâce de Dieu, je suis différent. Parce que j'aime mon Seigneur, parce que je me sais aimé de lui, de la même manière que je suis fidèle, je suis heureux de marcher avec mon épouse parce qu'un jour, ça a été le grand amour. Et c'est cet amour pour mon épouse qui m'a permis de me détacher de ma vie de célibat. C'est ce qui fait la différence. Oh, combien je voudrais en terminant vous encourager à venir à la croix, à rencontrer ce Dieu en Jésus-Christ et par Jésus-Christ en plaidant coupable. Approchez-vous de lui. Si vous connaissez déjà le Christ, mettez tout sur l'autel. C'est peut-être le moment de lui dire, « Oh Seigneur, pardonne parce que c'est la vache folle. Pardonne pour les animaux estropiés, volés. Seigneur, c'est pas juste. Je t'ai trompé. J'ai consumé ma vie ailleurs. Au lieu de la mettre sur l'autel, alors je viens à toi. Ce soir, je plaide coupable. Je veux marcher avec toi. Être centré sur toi, théocentrique, christocentrique. Il faut qu'on voit la différence. Je veux m'identifier à toi. Je veux commencer une nouvelle étape. Nous voulons prier dans ce sens, n'est-ce pas, maintenant. Seigneur, merci ce soir. Merci pour ta personne. Merci pour ta beauté. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, le Dieu dominateur, le Dieu qui soutient toutes choses dans sa main, le Dieu créateur du cosmos, le Dieu créateur de nos vies. Nous te bénissons pour ton immensité. Nous voulons te dire que nous te craignons, que nous avons pour toi un profond respect, qu'il nous arrive de trembler devant toi en réalisant combien tu es différent, combien tu es aux antipodes de nous. Mais ce soir, nous te bénissons aussi parce que tu nous aimes en Jésus-Christ. Merci pour cet immense amour qui ne change pas. Tu es le même aujourd'hui. Nous te prions les uns pour les autres, Seigneur, afin que tu tournes les regards de chacun vers toi. Et que ce soir soit une soirée de salut, une soirée de consécration. Seigneur, pardonne la vache folle dans ma vie, l'animal boiteux, estropié, volé. Seigneur, donne-nous de venir à la croix, de tout faire passer à la croix. Purifie, charge, pour que nous puissions ensuite mettre sur l'autel, à ton service, nos corps, nos personnes, en sacrifice vivant, saint, qu'il soit agréable. Car c'est vraiment un culte conforme à ce que la raison demande, logique, du cœur. Fais-le, Seigneur, en cet instant. Nous restons dans la prière. J'aimerais ce soir offrir à quiconque parmi nous l'occasion soit de dire, d'exprimer par le geste son désir d'entrer en relation avec ce Dieu par son Fils unique, Jésus-Christ uniquement. Quelqu'un qui veut avoir ce rendez-vous ce soir avec Christ à la croix, où le sang a été versé pour le pardon, pour un cœur nouveau, pour que le Saint-Esprit puisse nous habiter, n'est-ce pas? Alors je m'adresse déjà à ces amis qui sont là ce soir, invités par curiosité, sympathisants. En tout cas, ce qui est certain, amenés ici par le Dieu Tout-Puissant et le Dieu d'amour. Et puis, dans un même élan, je m'adresse aussi à vous, chers frères et sœurs, à vous qui réalisez déjà ce soir, depuis hier soir, que la différence n'est plus là, qu'il y a une usure, qu'il y a de la contestation, il n'y a plus la joie du service, et vous voulez revenir au Seigneur, revenir à la croix, pour tout mettre sur l'autel, simplement. Alors je voudrais vous encourager ce soir simplement, à votre place, de vous lever, sans vous occuper de quiconque à droite ou à gauche. C'est un moment dans la présence de Dieu, mais parce que Dieu, dans votre cœur, dans votre conscience, vous y invite par le Saint-Esprit, vous vous levez simplement ce soir, à votre place, pour lui dire votre regret profond, votre sentiment.